Frédéric Ducasse. Premièrement, je te souhaite la bienvenue dans l'équipe de PMML.
Merci beaucoup.
C'est un nouveau membre depuis quelques mois.
Exact, septembre. Début septembre.
Début septembre.
Début septembre, exact.
Donc, on a eu la chance de se croiser aussi à l'événement qu'on a fait début septembre.
C'était assez incroyable. Ouais. L'événement de famille, là, c'était vraiment tout qu'un événement. La vision de PMML est assez impressionnante. Fait que je suis ravi d'avoir de vous avoir tous rencontrés là.
Good. Je te laisse te présenter, tu es courtier immobilier depuis quelques années aussi.
Exact.
Je te laisse te présenter dans quelle région tu travailles aussi, puis un peu nous expliquer ton background dans le courtage immobilier.
All right. Dans le fond, Frédéric Ducasse, courtier immobilier, enchanté. Je suis courtier immobilier depuis 2019, puis je travaille principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait quand même quelques années que je suis dans l'immobilier. J'ai commencé l'immobilier autour de 2017, plus à titre d'investisseur. Puis par la suite, là, j'ai migré tranquillement vers le courtage. Au début, en courtage résidentiel en 2019, puis dès 2020, j'ai été chercher mon permis de courtage commercial. Puis par la suite, j'ai immédiatement démarré mon équipe de courtage chez Sutton, fait que l'équipe du Casse courtier immobilier. Puis par la suite, j'ai fini par me spécialiser en commercial.
Puis c'est intéressant aussi, tu dis que tu étais assez d'investisseur avant de faire du courtage.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui a fait te faire le déclic? Parce que tu aurais très bien pu continuer ta carrière d'investisseur. Je sais pas si tu as faire, tu as gagné ta vie avec ça aussi, mais pourquoi avoir choisi le courtage immobilier?
Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, à titre d'investisseur, c'est sûr que j'étais quand même jeune. J'avais 18-19 ans. 19 ans peut-être. Fait que c'est sûr qu'à 19 ans, là, le salaire est pas, il vient pas avec ça. Fait que c'était très, très difficile pour moi de faire des investissements qui étaient d'envergure pour me permettre de vivre de ça. Fait que rapidement, j'ai pris du recul puis je me suis dit, bon, de quelle manière est-ce que je pourrais devenir le plus impliqué dans l'immobilier possible pour en faire un mode de vie? Fait que j'ai regardé rapidement les options. C'est sûr que tu as les métiers de la construction, tu as l'évaluation, tu as le financement, tu as plusieurs domaines qui demandent beaucoup d'études aussi, mais j'avais soif d'être dans l'action rapidement. Fait que immédiatement, j'ai été chercher mon permis de courtage dans le résidentiel.
Puis, t'avais-tu l'expérience en vente ou l'expérience, tu sais, avec le service client? Ou c'est parce que, tu sais, pour te connaître, t'es quelqu'un que tu es super bien entre gens.
Ouais.
Ou si tu vas voir les gens, si c'est quelque chose de naturel. Chez toi, ça a toujours été le cas?
Ça a toujours été le cas. J'ai tout le temps eu cette partie-là assez naturelle, mais au départ, j'ai déménagé au Saguenay en 2014 pour étudier en physiothérapie. Fait que ça avait absolument aucun lien avec ce que je fais présentement. J'ai été en technique de physiothérapie pendant près de 3 ans. Mais ça m'a donné la proximité avec la clientèle assez rapidement. En physio, il faut être capable de mettre les gens à l'aise très rapidement. Mm-hmm. Fait que j'ai toujours, toujours travaillé dans le service à la clientèle sous une autre forme, mais ouais. Mais pas dans la vente, par contre. Dans la vente, j'avais aucune expérience. Là, c'était nouveau pour moi. Mais je te dirais que pour moi, la vente, ça n'a pas la signification que la plupart des gens l'ont.
Mm-hmm.
De mon côté, c'est plus de l'accompagnement. J'ai vraiment du plaisir avec mes clients. Puis jamais j'ai eu besoin de pousser un client à dire « Bon, mais je te vends ça pour telle raison. » J'ai jamais eu besoin parce que mes clients, je sais qu'est-ce qu'ils veulent, je sais qu'est-ce qui fonctionne avec eux. Fait que quand j'ai une opportunité, je m'assois, ça fait pas. Fait que métier de vendeur, je dirais que c'est assez relatif. J'ai jamais eu l'impression d'avoir à vendre, à dire « Ben, je pousse, je suis un vendeur plus que d'autres choses. » C'est vraiment de l'accompagnement.
Oui, puis c'est vrai aussi parce que les meilleurs vendeurs, c'est de ce monde aussi, souvent, c'est les meilleurs conseillers.
Ouais.
C'est des guides. C'est pour aider à prendre des décisions, prendre des choix aussi. Puis c'est de connaître les aspects c'est psychologiques, les craintes, les inquiétudes, surtout avec les conditions actuelles du marché,
ouais.
Aussi qui a changé là, par rapport à ce qu'on a connu dans les dernières années. Je pense que c'est important. C'est de plus en plus, il y a des investisseurs qui doivent justement se faire accompagner.
Aussi. Absolument.
Probablement parce qu'ils n'étaient pas dans le marché depuis, mettons, la dernière année. Puis s'ils sont en train de procéder à leur prochaine acquisition. Même si, exemple, c'est des propriétaires qui ont des parcs depuis plusieurs années aussi, les conditions changent aussi. Puis je pense que c'est de la plus-value que tu peux apporter en tant que courtier, au-delà de juste vendre pour vendre.
Oui, en plein ça. Puis au final, tout le monde a une vie qui est assez chargée. Même nos investisseurs ont une vie qui est assez chargée. Ils sont là-dedans, mais ils vont faire 4-5 acquisitions dans leur année. Puis là, ils vont se lancer à temps plein dans un projet. Mais entre chaque projet, il peut y avoir de la fluctuation de marché. Fait que dans tous les cas, moi, mon expérience, ça sert justement à dire, bon, mais en date du jour, c'est là qu'on se situe. Voici un portfolio d'investissement. Voici ce que tu peux en retirer. C'est ça les conditions. Ça fait ton affaire, ça fait pas ton affaire. Fait que je te dirais que c'est plus de laisser mon expérience parler puis de faire une présentation qui est assez transparente de ce qui est possible de faire au marché actuel. Fait que même si on a des investisseurs ou d'autres professionnels de l'immobilier qui sont impliqués, honnêtement, il faut quasiment être là-dedans chaque jour, chaque semaine pour dire qu'on se tient assez à jour sur le marché, là. Surtout dans le multiplex commercial.
Puis, peux-tu me parler du marché du Saguenay? aussi les particularités aussi, puis vends ta région, justement. Tu sais, pourquoi qu'un investisseur, mettons, de la région de Québec ou ailleurs à travers la province, devrait s'attarder sur la région du Saguenay-Saint-Jean, que ce soit autant dans le multilogement que dans le commercial ou probablement dans la construction neuve.
Écoute, je te dirais là que moi, de mon côté, je suis principalement spécialisé en multilogement. C'est ce que je fais le plus, mais je fais aussi au travers ça du commercial, de l'industriel. Fait que je vais parler un petit peu plus au niveau du multilogement. On est encore une des seules régions au Québec où on peut acheter puis jour 1 être rentable puis avoir de l'argent qui sort puis avoir un cash flow qui est positif sans avoir. Puis en finançant des, tu sais, encore du 75%, du 70% en conventionnel. Fait que pourquoi moi, c'est la meilleure région pour moi? Parce que c'est facile pour moi de présenter un portfolio d'investissement ou un projet immobilier à un client, puis de dire, ben, regarde, jour 1, là, tu as une liquidité positive qui rentre dans ton portefeuille, puis tu n'as pas besoin d'optimiser et de travailler comme un fou pendant 1 an, 2 ans, avant ou mettre une mise de fonds de 50, 60% de la valeur du projet pour pouvoir avoir de l'argent qui rentre. Fait qu'on a de l'immobilier qui est accessible, tant pour les nouveaux qui commencent que pour les gros joueurs. Puis, écoute, comparé aux autres régions, on a des ratios qui sont très intéressants. Si on regarde le 12 logements et moins, on est à 9,7 de MRB, tandis qu'ailleurs, c'est extrêmement facile de pogner du 18, du 20, puis des fois pas mal plus que ça, là. Fait qu'on est très abordable, puis c'est ce qui fait en sorte que l'accessibilité pour l'immobilier est très facile au Saguenay.
Oui, puis c'est sûr que le marché hypothécaire a joué pour beaucoup sur les valeurs économiques par
Absolument.
rapport aux valeurs marchandes, c'est dans toutes les autres régions à travers la province.
Oui.
Mais la tendance, puis c'est vrai, la tendance est observée au Saguenay, on l'a observé aussi à Trois-Rivières, en Outaouais également. Tu sais, il y a un rattrapage qui se fait aussi au niveau des valeurs locatives.
Oui.
Puis ça fait que l'appréciation des immeubles a
Oui.
augmenté à travers le temps.
Oui, vraiment. Vraiment, puis tu sais, c'est sûr et certain qu'on est dans une période, quand on parle de taux d'intérêt, où les gens ont un peu peur d'investir, vont se dire, bon, mais je prends du recul, c'est pas le moment. Mais tu sais, je pense qu'il y a une manière de le voir où ton taux d'intérêt, le réajustement de la valeur économique qui se fait en fonction du taux d'intérêt peut aussi être utilisé à ton avantage si tu fais la bonne négociation, si tu fais les bonnes acquisitions. Tu sais, d'un point de vue où on se recule un peu, si j'achète un immeuble à 1 million de valeur économique, je réussis à le sortir à 1,5 million de valeur marchande, puis mon taux d'intérêt dans 2 ou 3 ans descend de 2 % par exemple, ben, automatiquement, je viens de faire une équité positive. Fait que, en réalité, est-ce que c'est tant de mauvaises choses que ça? Les fluctuations de marché, on ne les a pas pour rien. Il faut juste être capable de s'adapter à son marché puis voir le positif, je pense.
Puis le marché locatif au Saguenay-Saint-Jean, ça ressemble à quoi? Parce que je sais que la construction, premièrement, c'est une crise de logement, là, c'est une notoriété publique partout à travers la province, donc le logement partout, y compris au Saguenay-Saint-Jean.
Même chose.
Je sais que tu es en contact avec des constructeurs
Ouais.
aussi. Ça ressemble à quoi le discours? Puis, tu sais, le langage que tu entends sur le terrain par rapport au consultant puis aux les valeurs locatives.
OK, je te dirais là, qu'au niveau locatif, on a eu un beau rattrapage, comme tu disais tout à l'heure, au niveau des logements, ce qui est une bonne chose parce que les logements étaient ridiculement beaux au Saguenay. T'sais, pour les investisseurs, il fallait que ça se réajuste. Puis par rapport au reste du marché là, au Québec aussi. Je te dirais que c'est plus au niveau de la réceptivité là, des locataires. C'est normal que voir cette hausse-là aussi fulgurante rapidement pour les locataires au Saguenay, ça peut faire mal, mais je te dirais que c'est un réajustement pas mal par rapport à la réalité qu'il y a partout au Québec. Puis le coût de construction est tellement élevé qu'on ne peut pas se mettre à lever des projets puis louer ça reste à 500 $ par mois le 3,5. C'est juste impossible puis infaisable. Ce qui a vraiment aidé à ce niveau-là, c'est le guideline qui a été déterminé par le programme APHLQ de la SCHL, où on vient dire que les logements abordables sont déterminés à 980 $ par mois au maximum au Saguenay. Fait que ça a comme créé un guideline autant pour les constructeurs que pour les locataires. Ben, en fonction du revenu moyen dans notre secteur, c'est 980 $ qui serait considéré un logement abordable. En haut de ça, ben, c'est sûr qu'on tombe dans des logements plus luxueux.
Puis 980 $, c'est quoi? C'est des studios, les 3,5, 4,5, 5,5, est-ce que tu viens de...
Ouais, on va se situer généralement là, dans le 9 pour 980 $, on va se situer plus dans des 3,5. Mais ça reste du logement qui est abordable. En haut de ça, c'est sûr que si on prend des grandes unités là, à des 5,5, ben aisément, on peut atteindre du 1 500 à 1 800 $ par mois pour un logement neuf d'une bonne superficie.
Good. Puis tu dis que tu as aménagé au Saguenay-Saint-Jean. Fait que toi, t'es pas original de Saguenay.
Non, je suis originaire de Sept-Îles. Ouais, je suis originaire de Sept-Îles. Fait que j'ai grandi là, à Sept-Îles avec mes deux frères, ma mère et mon père. Fait que ma famille est encore tous là-bas d'ailleurs, excepté mon frère qui est inspecteur en bâtiment au Saguenay. Shout-out, D-Tech Inspection. Fait que, ouais, c'est ça. Puis je suis très, très content d'avoir choisi la région du Saguenay. En fait, c'est un petit peu ça. C'est la région du Saguenay, je l'ai choisie pour toutes ces raisons-là. Je trouve qu'on est bien placé, on est proche de Québec, on est proche de ma région natale aussi. On a beaucoup de services, puis c'est une région qui est très diversifiée, tant dans le commercial, dans l'industriel. On a Rio Tinto, on a un quai à la baie. Fait que, écoute, on a pas mal de tout, ce qui fait en sorte que ça crée comme une stabilité du marché économique de notre région.
Ouais, puis c'est ma prochaine question aussi, c'est ça ressemble à quoi les industries puis les secteurs économiques, tu sais, qui soutiennent justement l'activité économique de la région?
Bien, on a vraiment de tous. On a beaucoup de tourisme, surtout au lac Saint-Jean. Fait qu'on a beaucoup de tourisme, ce qui est très intéressant. Après ça, dans l'industriel, bien, c'est sûr que le joueur majeur, on va avoir Rio Tinto. Mais je te dirais que globalement, c'est assez diversifié, là. On va avoir de tout, 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 là. Fait que c'est ce qui en fait une région très intéressante.
Good. Puis ton parcours qui t'a mené à PMML, raconte-moi ta première rencontre avec Patrice Pissanant.
OK.
Aussi, comment ça s'est passé, dans quel contexte? Je sais, tout le monde chez PMML a une histoire. Aussi, c'est toute une question de timing où tu te croises, tu te côtoies dans un événement. Aussi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui
Absolument.
a fait en sorte que tu aies décidé de rejoindre une équipe qui est spécialisée dans le commerce?
À ce moment-là, dans le fond, là, j'ai géré mon équipe résidentielle où j'avais quatre courtiers qui travaillaient pour moi, j'avais une adjointe également. Puis, on avait quand même un bon volume de transactions. Ça faisait en sorte que, tu sais, mon rôle principal, c'était de faire de la prospection, mais c'était aussi de gérer les problèmes dans chacune des transactions. Puis, avec du recul, je me suis rendu compte que je faisais plus de la gestion que du courtage immobilier. Puis, parallèlement à ça, je m'occupais des dossiers résidentiels, mais pour le temps qui me restait au travers de mes 70 heures de travail par semaine, je faisais du commercial. Puis c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'était ça ma passion. Fait que, tu sais, tous mes dossiers résidentiels étaient référés à mon équipe, puis moi, je m'occupais de mes clients commerciaux, puis c'était vraiment ce qui me faisait triper. Puis tout bonnement, j'ai reçu un texto, je crois que c'était de la part de Zoé, pour acquisition de talent. Fait qu'un texto, on est PMML, on est comme chercheur de tête là, pour un courtier commercial au Saguenay. Puis j'ai juste simplement répondu que je n'étais pas intéressé. Puis finalement, bien, il s'est écoulé un an au travers de tout ça, où je me suis mis à faire plus une remise en question de ce que je voulais faire, tu sais, pour être heureux dans mon travail. Puis le terrain me manquait, l'implication vraiment de dire, je suis assis avec un client, puis je m'occupe de lui, puis je fais des projets d'envergure. Tu sais, la partie qui me passionnait me manquait. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu une rencontre avec Patrick Pissanin ici à Québec, puis ça a été automatiquement là, un beau déclic pour moi parce que la vision de PMML, c'est exactement la vision où je veux mener ma carrière. T'sais, on veut des projets d'envergure, parce que pour moi, c'est des projets d'envergure, mais aussi de la qualité, de la transparence, puis de la passion. T'sais, dans un domaine où on a des clients qui font des gros sacrifices, qui investissent beaucoup, qui sont passionnés, puis on veut les accompagner là-dedans, puis il faut que nous aussi, on le soit, comme Patrice, puis Sanan. Fait que, écoute, ça a été automatique, on a fait notre rencontre, puis je pense que 3 jours après, j'avais signé, puis j'étais en train de faire le processus de transfert. Fait que ça a été un choc probablement pour beaucoup de personnes autour de moi, mais au final, je pense que c'est important d'être heureux dans son domaine, puis de garder cette passion-là le plus possible.
Oui, puis c'est ce qui te fait vibrer, justement, c'est de pouvoir travailler avec tes clients, les conseiller aussi.
Absolument.
Puis c'est quoi ton approche avec des clients, avec les investisseurs ou des consultants, quand ça soit avec eux? Ou si tu sais, souvent, est-ce que tu proposes une rencontre, une première rencontre, est-ce que tu vas parler directement d'immobilier, tu vas parler de leur projet aussi, c'est quoi ton approche?
Bien, écoute, c'est assez simple parce que, encore, je me répète, mais je suis aussi, moi aussi, investisseur. Fait que j'ai un petit parc immobilier. Fait que c'est tout le temps intriguant parce que moi, tout d'abord, quand je parle à mes clients, je suis surtout intrigué puis curieux de voir où ils sont rendus dans leur projet et tout ça. Fait qu'avant tout, avant même de parler de vente ou quoi que ce soit, j'étais intrigué de voir chacun de mes clients avec qui je travaille. Bon, ben toi, ton parc immobilier, t'es rendu où? Toi, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu vises? Fait que, tu sais, j'ai tout le temps un intérêt pour ça. Puis souvent, eux me posent des questions à l'inverse de moi où je suis rendu dans mes projets. Fait que, c'est plus un. Je te dirais que souvent l'approche, c'est plus une approche amicale puis intéressée de voir les autres progresser autour de nous. Puis par la suite, en fonction des besoins du client, bien là, à ce moment-là, on va aller plus loin dans le processus. Fait que soit avec une analyse comparative de marché, soit avec une projection future. Fait que mon client me dit, bien là, pour l'instant, je ne suis pas prêt à bouger, mais dans un an, j'aimerais ça vendre mon bâtiment. Bien là, on va établir une stratégie d'augmentation de loyer pour l'année d'après. On va préparer une stratégie d'augmentation au niveau des frais, au niveau des dépenses, au niveau de l'amélioration énergétique. Fait qu'il y a une multitude de choses qu'on peut faire pour préparer à la vente d'un bâtiment. Fait que bref, dépendamment de ce que le client a besoin puis où est-ce qu'il veut aller, à ce moment-là, soit je lui fais les conseils ou on le dirige vers les bons professionnels. Mais je te dirais que c'est des approches très, très amicales et intriguées plus qu'autre chose.
Oui, puis je pense que c'est tout à ton avantage aussi. Parce que premièrement, c'est avec la base de données, tu es capable de voir tu sais, c'est qui possède, c'est un parc ou non
Ouais.
aussi. Puis, fait qu'après ça ça permet d'avoir des discussions très intéressantes aussi.
Ouais.
Tu sais, tu peux voir, mettons, la disposition de certains actifs, aussi dépendamment du secteur, dépendamment aussi tu sais, de la grosseur de l'immeuble,
Ouais.
puis des projets. Fait que c'est super intéressant comme approche. Puis, tu sais, avec l'équipe de Québec, je dis l'équipe de Québec parce qu'il y a majoritairement, il y a des courtiers hypothécaires à Québec, il y en a partout à travers la province, mais ça permet justement, tu sais, si tu as besoin d'un ami hypothécaire,
Tout le
tu
temps.
prends le téléphone puis tu appelles l'équipe, là.
Ben, tu sais, ça se complète à 100%. Puis c'est ça
Ouais.
qui est génial, c'est qu'on a les deux départements. On a également la firme d'évaluation, mais les deux départements se complètent extrêmement bien parce que le taux d'intérêt puis la fluctuation du coût d'emprunt affecte tellement les projets immobiliers que les deux doivent aller en pair. Puis rapidement, une valeur peut passer d'une centaine de mille à l'autre juste à cause de ça. Fait que c'est important de tout le temps se garder les pieds à terre par rapport à ça. C'est ça.
Y a-t-il une transaction que tu es le plus fier, que tu te souviens, ou une anecdote que, tu sais, tu as fait la transaction, vendeur-acheteur, c'était compliqué, c'était mis à négocier aussi, c'est négociation par-dessus négociation, on a pu finir, puis finalement, à la fin, c'est tout le monde te remercie parce que tu avais été en mesure de résoudre soit des différends ou quoi que ce soit. Fait que ça peut être autant positif que négatif, mais qui est une transaction qui est très symbolique, que tu pourrais nous raconter.
Oui, absolument. Bien, je te dirais que c'était une transaction qui se passait strictement dans le commercial. Puis j'avais un acheteur qui était très intéressé, mais qui manquait un petit peu de liquidité. Puis j'avais un vendeur qui lui aussi voulait que la transaction aille de l'avant, mais tenait mordicus à son prix, avait besoin de son aide en poche pour aller passer à un autre projet. Puis là, bon, ça se négocie, puis bon, son fonds de retraite, tout ça. Fait que, bref, on négocie, on s'entend pas. Puis finalement, ben, j'apporte l'opportunité pour une balance de prix de vente que l'acheteur et le vendeur ne connaissaient pas. Puis ça faisait plusieurs fois que la balle se relançait. Puis j'en avais parlé au début, mais personne n'était à l'aise à ce moment-là parce que c'était de l'inconnu. Puis finalement, j'ai présenté le fonctionnement d'une balance de prix de vente. Puis c'était quoi les avantages au niveau du vendeur et de l'acheteur. Donc, plus précisément, une balance de prix de vente, ça se trouve que le vendeur va laisser de la liquidité dans le projet que l'acheteur va utiliser à titre de mise de fonds. Mais le vendeur va sauver sur son imposition là-dessus, puis il va retirer de l'intérêt également sous forme un peu de prêt privé, si on veut. Puis l'acheteur, ben, peut acheter le bâtiment avec un plus grand effet de levier, moins de mise de fonds. Puis écoute, ça prenait juste ça, finalement, la transaction a transigé. Mais un courtier qui aurait manqué d'expérience, n'aurait pas connu le produit ou n'aurait pas été prêt à pousser puis à prendre le temps de bien expliquer, la transaction n'aurait juste jamais eu lieu. Fait que l'acheteur a pu acheter, puis le vendeur a eu un bien meilleur prix juste parce qu'il a été ouvert à ça.
Puis ça, pour situer l'auditoire, c'est quel type de transaction, ici, résidentielle ou commerciale?
C'était strictement commercial. Ouais.
OK. Commercial aussi. Puis c'est important aussi parce que je pense à la balance de prix de vente, c'est un super bel outil. Premièrement,
Vraiment.
souvent, ça soit diffusé aux institutions financières
Tout à fait.
aussi, parce que ça fait partie de la stratégie ou de la structure de financement. Mais également aussi, tu n'arrives pas avec une promesse d'achat. J'imagine si tu avais proposé à ton acheteur de rentrer une balance de prix de vente lors des dépôts de la présentation de la promesse d'achat, le vendeur aurait
Ça aurait été
refusé
refusé
aussi.
automatiquement.
T'sais, fait que c'est très contextuel, dépendamment de l'avancement de la transaction.
Ben, tu sais, au début, on commence une transaction, puis on peut penser que ça s'en va à gauche. Finalement, ça vire à droite à tout moment. Fait que même s'il y a un départ au niveau de la transaction, on pense qu'on s'en va dans un cap, mais ça peut changer à tout moment. L'important, c'est d'écouter vraiment le besoin de nos acheteurs puis de nos vendeurs, puis trouver un terrain d'entente qui est gagnant pour les deux, où tout le monde va être à l'aise. Au final, c'est un gros travail de collaboration, tant dans l'interne de la transaction, dans l'interne de la transaction que dans l'externe avec tous les autres professionnels qui sont autour.
Puis tu dis-tu que le vendeur, mettons, qui a accepté l'avance de plus de vente, lui, il tenait mordicus à son prix aussi. Souvent, c'est ça l'enjeu, c'est que le vendeur, lui, il a un prix en tête, aussi pour plusieurs raisons. Aussi, il veut vendre cet immeuble-là à un prix, mais après ça, les chiffres, ça ne joue pas.
Fonctionne pas, les chiffres fonctionnent pas. Fait que, tu sais, après ça, tu t'assois avec ton vendeur puis tu lui dis, tu sais, je comprends là, que tu es investissant, je comprends que tu as besoin de ça dans tes poches, je comprends que tu viens réinvestir autant. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, dans le contexte économique qu'on a, ton immeuble, si on l'achète selon tes conditions, il n'y a aucune rentabilité à l'acheteur puis il y a un flux de trésorerie négatif. Explique-moi comment tu voudrais que ton acheteur t'achète un bâtiment non rentable juste pour te faire plaisir d'avoir ton prix. C'est juste, c'est impossible. Fait que toi, tu as deux choix. Soit tu vas baisser ton prix pour que ça devienne acceptable, ou tu vas lui donner un effet de levier qui permet à ton acheteur de se rentabiliser puis d'un peu moins se mouiller dans la transaction. Fait qu'à ce moment-là, la balance de prix de vente entre en jeu où tout le monde peut y tirer son compte.
Oui, super intéressant parce qu'en ce moment, on en voit plusieurs, tu sais,
Beaucoup.
puis il y a beaucoup d'acheteurs à être très actifs aussi, puis expérimentés, qui l'utilisent, qui font de bonnes transactions. Ça permet de générer des belles opportunités aussi par rapport à l'inventaire qui est disponible aussi. Après ça, reste que c'est quelqu'un comme toi qui est expérimenté, qui a fait plusieurs transactions, aussi est capable de naviguer là-dedans. Aussi, puis je pense que tu n'as pas de problème non plus de dire à l'achat que ce que tu demandes, c'est déraisonnable.
Oui, absolument.
Aussi. Puis, tu sais, pour ne pas tomber dans les extrêmes d'un côté comme de l'autre.
Ben, tu sais, au final, c'est vraiment un travail de transparence. Tant dans mon acheteur que mon vendeur, c'est important de leur mettre du jeu, tu sais, carte sur table, puis de leur montrer quels sont les chiffres. Tu sais, c'est une job de chiffres. Tu sais, je peux dire à mon acheteur, tes chiffres sont déraisonnables, puis lancer ça, puis ils ne le prendront pas en considération. Mais quand je m'assois avec l'acheteur, puis je dis, regarde, voici les comparables, tu es en train de déposer une promesse d'achat qui est dérisoire par rapport à la moyenne, qui est dérisoire par rapport à ce que le vendeur a investi. Voici la preuve, voici les chiffres. Ben, l'acheteur va dire, OK, ouais, c'est vrai que je suis un petit peu fou. J'aurais ajouté à la hausse. Puis, du même côté avec le vendeur, ben, c'est d'être capable de faire descendre un petit peu les attentes, mais dès le départ. Tu sais, c'est pas rare aussi qu'on va avoir des vendeurs qui vont, même avec tous ces chiffres-là, vont vouloir tenir leur prix. C'est normal, on sort d'un marché qui est extrêmement bon, fait que c'est normal que les gens aient des grosses attentes, mais on les avertit à l'avance. Regarde, je pense que ton chiffre de vente est déraisonnable pour telle et telle raison de temps. Mettons, je pense que tu es 100 000 trop cher. Ce que je te propose, c'est que je te le mets sur le marché pendant tant de temps. Je vais te prouver que tu es trop cher. Si tu es prêt à prendre l'achat, parce que c'est sûr que tu peux te brûler un peu, mais je vais te le démontrer que personne ne va être intéressé parce que tu es un peu trop dispendieux. Puis à ce moment-là, si tu es à l'aise, on ira avec la stratégie que je t'ai posée dès le départ. Puis à ce moment-là, ils peuvent eux-mêmes constater où est-ce que le marché en est.
Oui, puis c'est important aussi, c'est des fois de tester le marché, dans le sens que les chiffres ne veulent pas nécessairement tout dire.
Absolument.
Des comparables vendus, ça peut aider, des fois non. Aussi. Puis on le voit présentement aussi, ce qui a été vendu, mettons, plein an, mais c'est pas les mêmes conditions de marché. Là. Aussi, fait que ça prend à l'aise.
Ben, tu sais, au final, nous autres, on utilise tout des banques de données, puis on se fie beaucoup aux économistes. On est très bon pour dire le passé, mais pour dire le futur, c'est toujours impossible. Ce qu'on peut, c'est faire des projections par rapport à ce qu'on a déjà vu, puis croiser les doigts.
Parfait. Puis tes projets ou tes objectifs, je ne demande pas nécessairement de dire des chiffres.
Ouais.
Aussi, mais qu'est-ce que tu souhaites développer dans les prochains mois, prochaine année, dans ta carrière?
Ben c'est sûr que j'ai plusieurs aspects dans ma carrière. Je te dirais qu'au niveau de PMML, c'est vraiment de pouvoir donner une offre de service qui est accessible aux professionnels puis aux investisseurs du Saguenay. C'est une offre de service qui n'existait pas. On avait plusieurs courtiers qui en faisaient du commercial à temps partiel, fait qu'ils faisaient principalement du résidentiel puis un peu de commercial en sideline. Mais des courtiers spécialisés en commercial avec des outils de travail comme on a, il n'y en a juste pas. Fait que je pense que c'est une offre de service qui gagne à être connue dans mon secteur. Fait que le but, c'est vraiment d'aller grossir la notoriété de PMML. C'est mon objectif numéro un. Puis numéro deux, dans mes projets personnels, ben, c'est sûr et certain que c'est de grossir tranquillement mon parc immobilier. J'aimerais ça éventuellement faire construire un immeuble aussi. Fait que encore une fois, c'est toutes des belles opportunités où je peux travailler en collaboration là, avec ma clientèle.
Puis c'est intéressant aussi de boucler le bateau.
Ouais.
Je ne peux pas dire que je fais du résidentiel et du commercial, mais
exact.
Je suis strictement spécialisé dans le commercial.
Ouais.
Je pense que c'est beaucoup à gagner en expérience aussi en faisant ça, puis tu as beaucoup à offrir aussi à tes clients. Là.
Ouais.
C'est avec une offre de service spécialisée.
Oui, absolument.
Parfait. Fred, c'est un plaisir.
Merci.
J'invite tout le monde à communiquer avec Frédéric Ducasse, courtier immobilier dans la région du Saguenay.
Ouais.
Aussi, si vous êtes intéressé justement par les opportunités là-bas, si vous avez été les immeubles, que vous souhaitez savoir une opinion là, sur la valeur marchande. Aussi, ou des stratégies de financement, refinancement pour les retraits d'équité pour éventuellement réinvestir pour les prochaines acquisitions. Je pense que tu vas être capable d'accompagner les investisseurs actifs. Puis, niveau commercial, tu travailles avec des investisseurs, des propriétaires occupants, les deux.
Les deux. Puis, on est très fort aussi au niveau de la location. Tu sais, il y a beaucoup de locaux vacants où on a des propriétaires d'immeubles qui disent bon, j'ai tel local, je ne suis pas capable de le louer, c'est 10 000 pieds carrés, puis je ne trouve pas le bon locataire parce que c'est d'envergure. Parlez-en à nous. Nous autres, on va pouvoir vous faire une analyse comparative locative. On va pouvoir aussi accéder à toute notre clientèle de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, d'aller regarder si on n'a pas des franchises qui seraient intéressantes à investir au Saguenay. Fait qu'on a le bras long chez PMML, puis je pense que c'est une belle opportunité pour s'en servir.
Super bon point. Fait que merci pour ton temps.
Merci beaucoup, Yab.
Ça fait plaisir.